surtout bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai intitulé « L'hypersensibilité, est-ce une simple étiquette ?» Alors, je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach au sein du centre Anizen. Vous retrouverez plus d'informations sur notre centre de thérapie naturelle spécialisé dans les thérapies brèves et le coaching des personnes hautement sensibles sur www.anizen.ch. Alors, pourquoi finalement j'ai eu envie de parler de ce sujet de l'étiquette de l'hypersensibilité ? Ça fait un moment déjà que finalement ce sujet germe dans mon esprit. Je dois dire que j'y ai pas mal pensé aussi suite à la naissance de mon fils. Je me suis demandé, ok, qu'est-ce que c'est vraiment que l'hypersensibilité? Est-ce que je dois lui en parler quand il sera plus grand? Qu'est-ce que ça veut dire être hautement sensible? Comment est-ce que je peux en prendre soin? Et puis, est-ce que si j'ai cette démarche-là d'accompagnement de mon fils, est-ce que je suis en train de lui poser une étiquette sur le front? Est-ce qu'ensuite ça va être difficile pour lui de s'en libérer? Voilà, qu'est-ce que je projette sur lui? Finalement, je pense bien faire en voulant prendre soin de son profil, mais est-ce que je ne suis pas en train finalement de le stigmatiser? Et toute cette question-là de... Finalement aussi, qu'est-ce que ça veut dire en termes de société, de conditionnement? Voilà, ça m'a vraiment... Je dois dire, interpeller ce sujet-là. Ce qui m'étonnait aussi, c'est que de plus en plus, je recevais dans mon cabinet des personnes qui venaient en me disant, voilà, mon médecin m'a dit que j'étais pas hypersensible, que ça n'existait même pas, que c'était juste à la mode, ce genre de choses. Et donc, j'ai eu envie vraiment de creuser le sujet parce que ça me tient évidemment à cœur pour ma patientèle. J'ai des grandes valeurs, comme beaucoup de personnes hautement sensibles, d'honnêteté, de transparence. J'ai besoin de me sentir alignée avec mon travail pour que ça ait du sens, aussi dans l'éducation de mon fils. Donc, je suis vraiment allée creuser dans ce sujet. Alors évidemment, vous vous en doutez probablement que ce n'est pas terminé, parce que depuis 2015 que je parle du sujet de l'hypersensibilité, c'est à la date aussi, enfin c'est l'année durant laquelle ma première vidéo, l'hypersensibilité du fardeau cadeau, est sortie sur YouTube. Finalement, ma vision sur ce thème a beaucoup évolué. Aussi, il y a déjà de la recherche qui est sortie depuis, vraiment plein de sujets intéressants, de connaissances en fait sur ce profil-là, qui sont vraiment passionnantes. Et nous, avec mon conjoint, on a vraiment à cœur de transmettre ces informations. Donc vous trouverez sur nos chaînes YouTube respectives, donc la mienne Anita Rossier et la sienne Ricardo Rojas, sur notre site internet, plein d'informations, des articles sur le blog, des podcasts sur notre chaîne podcast, donc vraiment plein d'infos si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet. C'est un sujet évidemment qui fait vendre apparemment, parce que justement depuis 2015 j'étais une des seules, en tout cas dans ma région, qui parlait du sujet, et puis aujourd'hui ça pullule de partout, tout le monde en parle, il y a même plein de gens qui ont repris mon adage, l'hypersensibilité du fardeau cadeau, pour en faire des articles, des livres, etc. Donc on voit vraiment que c'est un sujet qui est à la mode, donc ça évidemment on ne peut pas dire le contraire, et moi certainement pas. Évidemment, maintenant, beaucoup de personnes en parlent. Il faut dire aussi que beaucoup de personnes parlent de plein de sujets au niveau spirituel. On parle de la cinquième dimension, des trois vagues de volontaires, des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel. Il y a un peu tout et son contraire qui se dit. On va de l'information scientifique aux licornes, en passant par la médiumnité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Évidemment, c'est maintenant avec Internet, l'essor que ça a pris, énormément d'informations sur le sujet. Et puis tout le monde y va un peu de son témoignage et on ne sait plus vraiment qui croire, quoi croire, ce qui fait aussi finalement le bonheur de certaines personnes qui vont écrire des articles sur le sujet en disant que voilà, ça manque de sérieux, ça n'existe pas vraiment. Alors là, j'avais vraiment envie, moi, suite à toutes les recherches que j'ai faites, de partager mon opinion, pas parce que je pense qu'elle est meilleure que celle de quelqu'un d'autre, mais simplement parce que j'ai envie de la partager, parce que ça me tient à cœur finalement de transmettre ce que moi j'ai pu apprendre, de faire gagner du temps à certaines personnes, mais c'est aussi surtout pour les personnes qui cherchent de l'information. qui cherchent de l'information pour comprendre en fait qu'elles ne sont pas folles, que tout s'explique, que finalement ce qu'elles vivent comme étant un fardeau peut devenir un cadeau, mais que ça sous-entend de comprendre ce qui est en train de se passer et d'arriver à appréhender ce profil, à prendre soin de soi, de son corps physique, de sa santé mentale, de ses besoins psycho-émotionnels qui sont spécifiques aux personnes hautement sensibles. Il faut savoir une chose, c'est que les personnes hautement sensibles ne sont pas plus sensibles que les autres. Elles sont sensibles différemment. C'est vraiment un profil à part. Et ça, plus on va creuser dans la recherche, plus on va creuser dans les résultats des recherches faites sur le sujet. Il faut savoir que maintenant, ça a pris de l'essor. Il n'y a plus uniquement de la psychologie classique, mais il y a de neurosciences, psychologie du développement, énormément de recherches qui sont faites sur le sujet par des gens très intelligents. Il y a Hélène Aron, qui était la première, qui a sorti, qui a parlé de cette haute sensibilité. Elle reprenait tout de même, finalement, les écrits de son prédécesseur, Carl Gustav Jung, qui était d'ailleurs un Suisse, pour ceux qui ne le savent pas, qui en 1913 déjà décrit le concept de la sensibilité innée. Donc lui parle déjà du fait qu'il y aurait 25% des individus qui auraient une sensibilité toute particulière et que ce n'est pas une pathologie, que c'est tout à fait normal. Donc en 1996, elle rédige cet article scientifique sur les personnes hautement sensibles qu'elle appelle Highly Sensitive Person, ou HSP, qui est maintenant tout à fait, qui fait référence en la matière. Elle-même, son épouse, ses équipes de recherche ont beaucoup avancé sur le sujet. Avec elle, d'autres chercheurs dans d'autres domaines poursuivent en fait les études. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on prenne le sujet d'un point de vue génétique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue neurosciences, et quelle que soit la manière finalement dont on aborde un petit peu cette question, tous en tous les cas se rejoignent pour dire qu'il y a 15 à 30% de la population qui présente vraiment une réponse qualitativement différente aux stimulations. Donc encore une fois, c'est pas juste être sensible plus, la même chose mais plus, c'est être sensible différemment, c'est fonctionner différemment, c'est penser différemment et c'est voir le monde différemment. Alors, avant de continuer, j'ai juste envie de parler de cette étude qui a été faite. Si vous voulez avoir l'article, je vous le transmets volontiers. Hein. Écrivez-nous à info@anizen.ch où ils ont étudié finalement le comportement des personnes hautement sensibles et leur conditionnement au niveau culturel en fait. À quel point ces personnes-là étaient influencées par ce que les gens autour d'elles pensent, donc autrement dit par la culture. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que donc, maintenant on sait qu'il n'y a plus deux familles, mais trois familles. Hein. Il y a les hautement sensibles qu'on compare aux orchidées, il y a les moyennement sensibles qu'on compare aux tulipes, dans la recherche toujours, et il y a les personnes qui sont le moins sensibles qu'on compare aux pissenlits. Cette image, ça représente un tout petit peu l'idée que justement l'orchidée, pour vraiment s'épanouir, pour pouvoir fleurir, elle a besoin d'un environnement adapté et que c'est plus complexe, ça nécessite plus de connaissances, de compétences en fait pour que ce milieu soit favorable. Et ils ont observé justement que les personnes hautement sensibles sont beaucoup moins influencées par le conditionnement des gens autour d'elles et ça s'explique par le trait le plus typique chez les personnes hautement sensible, HSP en anglais, c'est la profondeur dans le traitement de l'information. Donc c'est vraiment depth of processing, on appelle ça en anglais. C'est des personnes qui vont réfléchir, qui vont se poser des questions de sens, des questions profondes, et avant d'être satisfaites avec la réponse, elles ont besoin qu'elles le ressentent profondément, que ça fasse sens pour elles. Et ça veut dire qu'elles ne vont pas simplement écouter ce qu'on leur dit, ce qu'on leur conseille, mais elles ont besoin finalement de le ressentir et que ça s'aligne avec intuitivement ce qu'elles ressentent. Ça, c'est très important de comprendre que c'est le trait principal qui caractérise la personne hautement sensible. C'est aussi ce trait-là qui fait que souvent on va nous dire qu'on réfléchit trop, qu'on se pose trop de questions, etc. C'est un peu comme si on me reproche d'avoir les cheveux bruns ou d'avoir une certaine couleur de peau. On ne peut pas faire autrement. Quand on a ce profil, on a finalement ce trait de personnalité qui s'appelle justement, encore une fois, depth of processing en anglais, profondeur dans le traitement de l'information. C'est le trait le plus caractéristique. Les quatre traits principaux qui sont identifiés dans ce profil sont désignés par l'acronyme anglophone DOIS en anglais. Donc, le premier, c'est depth of processing, profondeur dans le traitement de l'information. Le second, c'est overstimulation, facilement surstimulé. Ça, c'est aussi en lien avec le système nerveux et les spécificités du système nerveux. Le troisième, le I ou E en français, emotional responsivity ou empathy, donc une plus grande réceptivité émotionnelle, une plus grande empathie. Et le quatrième trait, le S, c'est sensitive to subtleties, ça veut dire plus conscient des stimuli subtils. Donc voilà les quatre traits principaux qui sont en lien avec ce profil, vraiment c'est un profil neurobiologique avec toute une construction psychologique, un profil génétique, une façon de penser. C'est donc la profondeur dans le traitement de l'information, facilement surstimulée, plus grande réceptivité émotionnelle ou empathie et plus conscient des stimuli subtils. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas juste une idée qu'on se fait, ça existe pour de vrai et ça peut rendre pour de vrai la vie plus compliquée. Parce que c'est évident que quand on est facilement surstimulé, quand on se pose beaucoup de questions, qu'on a besoin d'être vraiment, d'aller au fond de chaque chose, ça peut fatiguer. Quand on est empathique aussi, dans le monde dans lequel on vit, ça peut être fatigant, on peut trouver ça difficile aussi. En particulier si je ne sais pas que mon profil est différent de celui des autres et si je ne sais pas que moi, je fonctionne simplement différemment. Donc, c'est-à-dire que quand toute votre vie, on vous dit que vous réfléchissez trop, comme on finissait par le croire, vous dites, oui, c'est vrai, il faut que j'arrive à réfléchir moins, et vraiment, vous faites énormément d'efforts, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre profil. Donc, c'est un peu comme si vous avez des cheveux bruns, comme moi, on peut se teindre les cheveux en blond, donc on peut porter un masque, faire croire qu'on est blonde, mais on reste brune au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, de dire à une personne hypersensible qu'elle s'est mise une étiquette et puis que c'est pour ça que maintenant elle réfléchit beaucoup, c'est à mon avis ridicule. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas leur en vouloir de ne pas comprendre parce que finalement, si on ne le vit pas soi-même, j'imagine que c'est difficile de se représenter ce que tout ça veut dire. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur ce profil, sur la recherche, n'hésitez pas à aller voir notre site internet. Nous avons préparé pour vous tout spécialement une page « Êtes-vous hypersensible ?» Donc vous cliquez sur le petit rond rose en arrivant « Êtes-vous hypersensible ?» Et là vous avez un résumé. Et puis, vous avez aussi le questionnaire qui vous permet de faire le test. C'est donc un questionnaire qui a été développé par Hélène Aron, mais qui fait maintenant tout à fait référence sur le sujet dans la recherche, parce qu'il est vraiment pertinent et qui vous permet de, finalement d'avoir un score. Alors voilà, encore une fois, hein, c'est pas oui ou non, mais dans tous les cas, si par exemple vous regardez la vidéo « L'hypersensibilité du fardeau au cadeau » et que vous vous reconnaissez, c'est presque impossible que vous soyez pas hautement sensible, très sincèrement. Voilà. Alors pour continuer, est-ce que c'est à la mode l'hypersensibilité? Ben encore une fois, c'est évident que oui. On peut pas dire le contraire. On voit par exemple sur les réseaux sociaux de type Facebook, LinkedIn, YouTube, le nombre d'informations, d'articles qui paraissent à la télévision, on en parle, dans les journaux, on en parle. Beaucoup de monde en parle des profils atypiques, des zèbres, des surdoués, etc. Donc oui, c'est à la mode, mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Au contraire, j'ai envie de dire que ben, heureusement, ces dernières années, on commence à en parler parce que justement, moi, quand j'étais à l'école, personne ne s'est rendu compte finalement que j'avais un profil différent. On m'a laissée dans mon coin, je m'ennuyais terriblement, j'avais très peu d'interactions sociales. Et puis finalement, je sais pas, c'est totalement inaperçu parce que j'avais pas de problème scolaire véritable, voyez-vous. Et aujourd'hui, quand on repère des enfants comme ça, eh bien, quelque part, les enseignants sont formés pour les détecter. On fait des dépistages parce que c'est très mauvais, très mal dit parce que c'est pas une maladie, hein, mais on leur fait passer des tests et tout ça, puis on essaie de les accompagner au mieux parce qu'on sait que ces enfants-là, justement, par rapport aux spécificités de leur profil, auront certains défis à relever, et notamment tout ce qui est de l'aspect émotionnel, tout ce qui est de l'aspect aussi de cette pensée, de cette profondeur dans le traitement de l'information qui fait que parfois ils vont être finis anxieux, réfléchir beaucoup, comment faire juste, comment pas blesser, etc. etc. Et justement, souvent ils ne remarquent pas, moi j'accompagne aussi beaucoup d'enfants, hypersensibles, plutôt hautement sensibles, ils ne se rendent pas compte eux, qu'ils sont différents des autres, quelque part, c'est un peu inconscient comme ça, mais ils se sentent décalés quand même au fond. Et si justement on ne leur explique pas, alors s'il est totalement bien intégré, il est heureux, il est joyeux, alors pourquoi l'embêter avec ça, je veux dire, il n'y a aucune raison. Mais si on voit que justement il a un peu de la difficulté à se faire des amis, qu'il se fait du souci, qu'il se pose beaucoup de questions, qu'il manque de confiance en lui, alors là je pense que c'est le moment de lui expliquer tout ça, de lui expliquer ce que c'est que la haute sensibilité, de lui dire aussi que c'est pas une maladie et que c'est pas moins bien. C'est-à-dire qu'on vit dans une société aujourd'hui, et ça c'est à mon avis un des grands problèmes, et pourquoi les gens ont peur de porter cette étiquette, c'est que dans notre société, si on n'est pas un fonceur, si on n'est pas un gagnant, si on n'a pas de l'ambition, si on ne réussit pas, etc., qu'on n'est pas riche, qu'on n'a pas le Touran, la Maison Blanche, la Bayère Blanche, etc., quand on est une femme, il faut avoir une carrière, il faut avoir au moins deux enfants assez rapprochés, puis ensuite il faut faire du fitness, et puis il faut perdre 6 kilos rapidement, enfin, la pression de fou, en fait, qu'on subit dans notre société, elle est vraiment incroyable. Et puis, ben, c'est l'idée un petit peu de leur dire, ok, prenons un peu de recul par rapport à tout ça, ça convient peut-être à beaucoup de monde, mais pas à toi, parce que tout simplement, tu as d'autres besoins, et toi, tu n'as pas forcément besoin de suivre ce que tout le monde fait, tu as plutôt besoin, encore une fois, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la recherche, tu as plutôt besoin d'apprendre à prendre soin de cette haute sensibilité. Et pourquoi je pense que c'est tellement important, c'est parce qu'à mon avis, si ce profil est toujours là, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il a toujours existé, c'est pas seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux, hein. Ça veut dire que c'est à la mode maintenant, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est évident que ça a toujours été là. Après, il y a certaines théories qui disent que de nos jours, il y a de plus en plus d'enfants autistes, de plus en plus d'enfants cristal, arc-en-ciel, ça veut dire que c'est des enfants qui ont des auras bien spécifiques, des facultés médiumniques spécifiques, etc. C'est certainement vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai lu l'ouvrage « Les trois vagues de volontaires » de Dolores Cannon. Ça m'a totalement, convaincue. C'est vraiment une femme très intelligente. Elle a fait un travail extrêmement rigoureux, documenté. Enfin, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle a fait. Donc, moi, en tout cas, j'ai trouvé sérieux. J'ai trouvé extrêmement intéressant. Et personnellement, j'ai été convaincue par son ouvrage. C'est vrai qu'on vit probablement une période sans précédent, un tournant en fait au niveau de la conscience planétaire. Mais ça ne veut pas dire que la haute sensibilité n'existait pas avant, et ça ne veut pas dire non plus que c'est uniquement chez les humains, parce que c'est aussi chez les animaux. Et pourquoi c'est tellement important? C'est parce que justement ce sont des individus aussi qui réfléchissent avant d'agir. Alors bien sûr, dans notre société, c'est pas tellement mis en valeur, hein. On veut des gagnants, on veut des fonceurs, on veut des gens, voilà, qui performent. Mais au fond, souvent, c'est aussi des gens qui agissent d'abord, réfléchissent après, et parfois les conséquences sont dramatiques. Et comme ils se laissent emporter un peu par le flux de pensée, par leur culture, ils se remettent pas aussi profondément en question et ils réalisent pas en fait les conséquences à moyen et long terme. Et à mon avis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le monde en est là où il en est aujourd'hui, qu'il est pollué, que beaucoup de gens meurent de faim, alors qu'il y aurait finalement assez de ressources. C'est parce que, ben, finalement, les personnes qui sont un peu plus en retrait et qui réfléchissent avant d'agir, on ne les écoute pas, et même on les stigmatise, quelque part on leur fait croire qu'elles ont un problème, qu'elles réfléchissent trop, qu'elles se posent trop de questions, etc. Et tout ça, ça noie un tout petit peu le vrai problème au fond. Donc on voit par exemple, ça c'est aussi d'autres études qui ont démontré ça, que c'est cette sensibilité, cette faculté en fait d'empathie, ce sont vraiment des qualités en Orient, par exemple. Dans la cour d'école, les enfants en Orient qui sont sensibles, ils sont bien vus. C'est eux qui sont les plus populaires. Alors que c'est exactement l'inverse, par exemple, dans l'étude, il parlait du Canada, mais je pense que ça peut être représentatif tout à fait de l'Occident. Donc, encore une fois, oui, cette hypersensibilité, elle est à la mode, mais c'est tant mieux, parce que comme ça, on en parle, et comme ça, les gens qui ont besoin de réaliser qu'ils font partie de ce profil-là ont accès à cette information. Ah, je ne suis pas folle. Ah, je ne suis pas seule. Et ça, c'est très important. Et ensuite, c'est important aussi qu'on ne les culpabilise pas en leur disant, ouais, mais bon, voilà, il ne faut pas te cacher là derrière, c'est qu'une étiquette. Ça m'énerve profondément parce qu'en fait, du coup, on lui dit, ok, ben en fait, tu vois, c'est pas bien parce que tu portes cette étiquette, c'est mal. Mais c'est comme si c'était péjoratif, alors que pas du tout. Encore une fois, c'est nécessaire. Et c'est positif pour la préservation de l'espèce que certains individus, dans cette proportion-là, qui peut-être est en train d'augmenter, ça je, voilà, c'est une hypothèse, réfléchissent d'abord, agissent ensuite, soient plus empathiques, soient plus conscients des impacts de leur acte et quelque part, qu'ils soient plus conscients aussi de quelque part de l'impact de leurs actes sur la psyché et sur le bien-être d'autrui. Et je pense que si on écoutait plus ce type-là de raisonnement, le monde irait probablement mieux. Ça aussi, ça n'est qu'une hypothèse. Mais moi, je trouve désolant ce qui est en train de se passer. Et heureusement, voilà, des mouvements se soulèvent. Mais il y a quand même une forme d'aveuglement, ce qui fait que les gens continuent de s'acheter des grosses voitures qui polluent, continuent de maintenant, il y a le Covid, mais de voyager dans le monde entier sans se poser aucune question sur leur impact, sur leur environnement, sur la façon dont ils se nourrissent, sur la façon dont ils consomment, en fait. Voilà, il y a peu de prise de conscience réelle, alors qu'en fait, les éléments sont là, les preuves sont là, le monde court à sa perte. Le pape François, d'ailleurs, a pris très, très au sérieux ce sujet. Le pape François, c'est vraiment un homme que je trouve fascinant, qui me touche, que je trouve une sagesse très particulière, mais c'est pas le seul. Il y a Al Gore aussi, et il y en a beaucoup d'autres. Et c'est des hommes très intelligents et qui ont certainement réfléchi au sujet avant d'en parler. Voilà, donc le fait, enfin, ce qui est à la mode, encore une fois, c'est pas la haute sensibilité. C'est le fait qu'on en parle, parce qu'elle a toujours été là. Et je pense que c'est bien, parce que justement, les individus qui sont concernés ont besoin d'avoir accès à l'information. Pourquoi? C'est parce qu'on sait aussi, et ça, c'est les études qui le montrent, que justement, elles ont besoin d'un terrain qui soit favorable pour pouvoir s'épanouir. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Elles ont besoin de comprendre qu'elles ont quelque part une particularité, que leur système nerveux fonctionne différemment. Encore une fois, elles ne sont pas sensibles plus, mais différemment, de façon qualitative. Ça veut dire que d'être surstimulé sur un trop long terme, de nier finalement leurs émotions, de vouloir correspondre à la norme, ça va les épuiser. Et si elles vont trop loin dans cet épuisement, il y a un fort risque de burn-out et on sait que chez ces individus-là, ce risque est plus élevé. En plus, souvent elles manquent de confiance en elles et puis justement elles perçoivent qu'elles sont décalées, elles ont l'impression qu'elles devraient arriver à faire aussi vite, aussi bien que les autres. Elles ne réalisent pas que leur profil fait que, bon, en fait, peut-être ça ne leur convient pas et même au fond, ça ne fait pas de sens pour elles. Et une personne hautement sensible qui n'a pas de sens dans ce qu'elle fait, c'est comme si elle mourait à l'intérieur. Mais comme elle se sent bête, elle ne comprend pas, elle va continuer dans cette voie-là jusqu'à ce qu'elle arrive à l'épuisement. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pathologies qui sont graves, qui sont invalidantes, qui sont difficiles à soigner, qui sont associées à ce terrain-là, mais quand il est justement quelque part en effondrement. Donc, ça, être hautement sensible, c'est pas du tout un gage de maladie, c'est pas du tout une pathologie, au contraire, bien appréhender justement tels que les orchidées, c'est vraiment des profils qui fleurissent, qui s'épanouissent, qui ont souvent un leadership particulier, qui vont être appréciés au niveau relationnel, au niveau du travail. C'est souvent des gens indépendants qui vont être leaders, qui vont monter leur boîte, qui vont être indépendants, etc., qui vont avoir des pensées innovantes. Donc c'est vraiment des profils aussi quelque part magnifiques. Mais lorsque justement on arrive dans ce côté de la surstimulation, donc des personnes qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne savent pas prendre soin d'eux. Alors, on a justement des maladies de décompensation, donc qu'on appelle les pathologies associées au terrain de la haute sensibilité. Alors là, je les cite simplement, mais il faut savoir que Ricardo est spécialiste du sujet. Il a fait une vidéo là-dessus qui est très très pointue, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à la regarder. Quelles sont ces maladies? Pour n'en citer que quelques-unes, il y a la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, le syndrome anxio-dépressif, les hypersensibilités électromagnétiques ou chimiques, le syndrome du côlon irritable et certaines maladies du système immunitaire, notamment des maladies auto-immunes. Alors finalement, ben, c'est ça que moi j'ai envie de dire, ok, cessons de stigmatiser les personnes hautement sensibles, voilà, elles sont différentes, elles réagissent plus fort, elles ont des émotions plus intenses, et c'est très bien comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est simplement nécessaire, il y a une certaine catégorie de personnes qui fonctionnent comme ça. Mieux on les accompagne, et plus elles pourront fleurir, et plus elles pourront tirer le meilleur parti de ce profil, et plus elles auront une personnalité épanouie. Alors, je reprends cette citation de Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et vraiment, je pense que la haute sensibilité, c'est un profil qui permet d'aller très au fond. C'est des personnes qui sont introspectives, qui s'analysent beaucoup. Et ça peut être, magnifique, parce que ça leur permet de se développer, mais si justement elles sont dans le doute permanent d'elles-mêmes et qu'elles veulent le faire comme tout le monde, alors là ça va se retourner contre elles en profil anxieux-dépressif. Et je crois vraiment que la haute sensibilité, c'est un choix d'incarnation comme un autre. Alors là, chacun a son système de croyance sur le sujet. Hein. Moi, j'ai une spiritualité qui est importante, qui prend une grande part de ma vie. Ça m'a donné beaucoup de réponses, ça m'a beaucoup aidé à me développer. Et je crois que, enfin, après les recherches que j'ai faites, et aussi avoir beaucoup réfléchi sur le sujet, vous vous en doutez, moi je crois qu'on vient en tant qu'âme sur Terre pour évoluer. Je crois alors qu'on reçoit certains dons qui sont nécessaires pour accomplir notre mission. Et je reprendrai cette parabole des talents de Matthieu 25, 14 à 30, qui dit ceci, « À qui il sera beaucoup donné, on demandera beaucoup. » Donc je crois que c'est vrai, on a des profils avec beaucoup de potentiel, mais ça nous demande aussi beaucoup de réflexion, beaucoup de soins, d'aller au fond des choses pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors après, cette idée de l'étiquette, c'est aussi souvent repris par des gens qui disent « Ok, on ne porte pas l'étiquette, si on définit une chose, on la limite, etc. » Et il y a tout un courant comme ça de pensée qui fait qu'il faut pas du tout s'identifier à rien du tout, on fait tous partie du grand tout, etc. Alors oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, sauf qu'à mon avis, c'est un faux débat, c'est-à-dire que on vient sur Terre avec en tant que personnalité, on vit une vie incarnée en tant que personnalité. Si on avait voulu connaître cette association grand tout, l'harmonie parfaite, éternelle, etc., jamais personne ne viendrait sur Terre. Parce qu'il faut bien être conscient que c'est un choix qu'on fait. Et au moment où on vient sur Terre, ben, y a une part d'aveuglement. C'est évident. Et les guides, pour ceux qui ont cette approche-là, ces croyances-là, quand on parle à nos guides, ils le savent très bien, ça. Et quand ils nous voient nous tromper, ou nous voient réfléchir de façon idiote parce qu'on est pris dans cette troisième dimension, parce qu'on a des contraintes financières, des factures à payer, puis qu'on se fait beaucoup de soucis pour tout ça, eux, de là où ils sont, ça semble évidemment ridicule, mais ils comprennent là où on est, ils comprennent quelles sont nos contraintes, ils en tiennent compte, ils ne nous en veulent pas, mais voilà, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au fond, ça, c'est tout ça, c'est illusion, mais on sait que vous êtes dans cette illusion. Il ne peut en être autrement. Alors, par moments, quand on médite, on a des états de grâce, comme ça, où on se trouve relié au grand tout, mais c'est que par moments, et c'est clair que si on est tout le temps là-dedans, on commence à marcher un mètre du sol, et puis on fonctionne plus du tout. Donc, ça devient presque pathologique, en quelque sorte. Donc, on fait simplement, par moments, on est relié à tout ça, mais la plupart du temps, on est en train de vivre une vie incarnée en tant que personne, et puis voilà, comme le dit Swami Panjampada, alors excusez-moi, je ne suis pas sûre de la prononciation, par contre, j'adore sa citation qui dit « Toute relation est illusoire, mais on ne peut se passer d'autrui. Le monde extérieur vous donne continuellement l'occasion de vous voir et de vous observer, donc une chance de vous transformer. » Et moi, ce que je crois, c'est qu'on vient sur Terre pour ça. que si on avait voulu connaître l'amour éternel, ben, on serait resté dans le monde spirituel, qu'il n'y avait aucune raison de faire ce voyage sur Terre. On le fait parce qu'il y a un sens. Et cette expérience, quelque part, cette illusion-là, nous transforme, nous fait évoluer. Elle nous apprend parce qu'elle nous confronte. Je reprendrai aussi cette citation de Pythagore qui dit « Dans le théâtre des humains, les places de spectateurs sont réservées à Dieu et à ses anges. » Ça veut dire que nous, on n'est pas des spectateurs, on joue pour de vrai la pièce de théâtre, on y croit probablement trop, mais ça fait partie du jeu. Et si on veut que le jeu fonctionne, si on veut que cette école porte ses fruits quelque part, ben, on accepte aussi ses limites. Accepter ses limites, ça veut dire, ok, ben moi je suis une personne, j'ai certains besoins, et si je fais du déni de ces besoins-là, quelque part, ça va me rendre malade. Que ce soit au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel, quelque part, cette maladie-là m'éloigne de l'expérience de Dieu. Donc je ne crois pas du tout que ce soit d'éviter de porter une étiquette qui nous permet de nous relier au grand tout. Moi je trouve ça, quelque part, je pense que c'est réfléchir à l'envers. J'ai plutôt l'impression que okay, si j'accepte mes limites avec humilité et que j'en comprends en fait le sens et que vraiment j'accepte pleinement de vivre cette mission incarnée sur Terre avec la douleur qu'elle peut comporter, certaines souffrances, certaines résistances, un certain aveuglement, plus j'accepte, plus je me rapproche de Dieu et ce petit conte que je trouve merveilleux qui parle de l'arbre et de la pirogue est vraiment extrêmement explicite. Il dit ceci: tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même. Et donc ça, c'est vraiment le Bouddha, hein, finalement, qui est dans un total détachement. Et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Et les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Un peu, c'est comme si on est entre deux mondes déchirés, comme ça. Mais jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Ça, vraiment, c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que, ok, j'accepte pleinement d'être un homme, et c'est là que je fais la plus belle expérience qu'il nous soit donné de vivre en tant qu'humain, l'expérience de Dieu, au travers du Fils dont parlait Jésus. Donc, tout ça pour vous dire que si on ne prend pas en compte ce profil-là, si, enfin, encore une fois, si on est tout à fait heureux, pleinement épanoui, ben pourquoi aller se poser ce genre de questions, franchement? Il n'y a aucune raison. Et puis, certainement que plein de gens sont hautement sensibles, ils n'en ont aucune idée, parce que voilà, ça ne leur pose pas de problème, ils le vivent très bien, et tant mieux pour eux. Et justement, moins on va, quelque part, stigmatiser la haute sensibilité, et plus d'enfants vont devenir adultes en pouvant assumer pleinement leur profil et ça passera comme une lettre à la poste et ils n'auront plus d'étiquette sur le front parce qu'ils seront simplement des gens, voilà, qui fonctionnent différemment, mais voilà, ça fait partie de la diversité, tout comme il y a des hommes, des femmes, il y a des blonds, il y a des bruns comme moi, il y a des gens qui ont les yeux bleus, des gens qui ont les yeux bruns, etc. Ben voilà, il y a des personnes hautement sensibles, il y a des personnes moyennement sensibles, il y a des personnes peu sensibles et tout, voilà, ça fait simplement partie de la diversité. J'en veux pour preuve aussi mon témoignage. Quelque part, j'avais justement essayé, moi, de poursuivre une carrière de personne, on va dire, normale, avec un profil normal, et puis je me suis... j'ai explosé en plein vol, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas que vraiment que j'ai raté ma carrière. C'est dans le sens où ben, ça m'a épuisée. J'entendais tout le temps que j'étais trop émotionnelle, que c'était un problème et j'y croyais, donc j'essayais de changer. Alors évidemment, ben, c'était voué à l'échec, c'était finalement culpabilisant, je me suis moi-même beaucoup contrainte à faire plein de choses qui ne me convenaient pas. Et au final, quelques années après, quand j'ai enfin accepté, les choses ont commencé à changer, je me suis transformée, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma passion. Aujourd'hui, ben, je suis en couple, maman, je suis indépendante, je suis épanouie, heureuse, et heureuse d'être hautement sensible, et vraiment c'est ce que je souhaite à toutes les personnes hautement sensibles, mais surtout si je pouvais leur souhaiter que ce soit plus facile que pour moi. Voilà, vraiment. Ça, c'est notre vœu aussi au Centre Anisen, à Ricardo comme à moi-même, c'est de faciliter la vie des personnes hautement sensibles, de faciliter leur intégration, qu'elles n'aient plus à se sentir bizarres, et puis que quand elles, si elles tombent malades aussi, qu'elles puissent être accompagnées correctement, qu'on ne les culpabilise pas et qu'on ne les stigmatise pas. Voilà. Donc c'est vrai que les crises sont des opportunités de changement et que le conflit intérieur que moi je vivais de justement vouloir me conformer, donc j'ai fait des années de thérapie pour essayer de devenir comme tout le monde. Eh bien, à un moment donné, si vous voulez, ma nature profonde est tellement entrée en conflit avec la personne que j'essayais d'être que ça a craqué quelque part. Et c'était tant mieux parce qu'encore une fois, ça m'a permis finalement d'en être là où j'en suis aujourd'hui, d'être bien plus heureuse. Et c'est pour ça que c'est grâce à une amie à moi qui m'en a à l'époque parlé, que j'ai lu à l'époque, je pense trop, de Christelle Petit-Collin, que j'ai commencé un peu à chercher de l'info, à me renseigner, à faire des démarches aussi, diagnostiques chez des psychiatres pour objectiver tout ça, à faire des tests, pour finalement vraiment pouvoir, après tant d'années, vraiment assumer ce profil. Ok, moi je suis plus sensible, voilà. Il s'est avéré qu'en plus de ça, j'avais certaines capacités médiumniques qui me compliquaient la vie parce que je ne le savais pas, je ne comprenais pas en fait que je ressentais des choses qui ne m'appartenaient pas. Et tout ça a été vraiment un parcours qui a été douloureux, semé d'embûches, mais au final, j'ai appris comment cultiver un terrain pour que mon orchidée puisse fleurir. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite à tous. Alors, pour toutes celles pour qui c'est déjà un cadeau, alors voilà, magnifique, continuez comme ça, rien n'a changé. Pour toutes celles qui en ont besoin, vraiment, faites ce chemin d'apprendre comment vous fonctionnez. Et pour ceci, encore une fois, sur notre site, il y a plein d'infos. Il y a aussi une formation en ligne de 5 soirées. Voilà, pour quelque part apprendre à mieux vivre avec sa haute sensibilité, que j'ai intitulée l'hypersensibilité du fardeau au cadeau. Donc 5 soirées, vous pouvez suivre ça en direct ou en replay pour vraiment apprendre les outils dont vous avez besoin pour mieux vivre avec cette haute sensibilité. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On s'expose. Voilà, un environnement qui est défavorable, on s'épuise petit à petit. Il faut savoir que on est d'autant plus vulnérable en tant que personne hautement sensible et que une fois qu'on est épuisé, on ne peut plus aider personne, on se retrouve finalement malheureux et là notre arbre ne fait plus de fruits. Et comme disait Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc pour toutes celles aussi qui sont déjà malades, c'est vraiment des clés de guérison que vous allez bien trouver. Et ces clés, les leviers de changement, vous les trouverez vraiment dans l'appropriation de votre profil. Comprendre, accepter, assumer et vivre pleinement ce profil. Et ça ne vous stigmatise pas, au contraire. Ça fait qu'ensuite, vous comprenez mieux le monde et que vous pouvez mieux être intégré dans ce monde-là. Parce qu'il n'y a rien de mal à être hautement sensible. C'est comme, encore une fois, d'avoir les cheveux bruns, d'être une femme.
Alors, finalement, voilà, pour conclure, j'ai envie de dire, c'est aussi à nous, les personnes hautement sensibles, les premières, de dire, ok, la haute sensibilité, c'est pas une étiquette. C'est normal pour une certaine catégorie de personnes et c'est pas une maladie, c'est pas péjoratif. C'est une qualité autant qu'un défaut, c'est un profil et moi je fais partie de cette catégorie de personnes qui ont ce profil et je peux tout à fait l'assumer. J'en suis fière, je suis fière d'être qui je suis parce que ça et tous les autres aspects de ma personnalité finalement font de moi qui je suis. Et voilà, je suis heureux de laisser ma lumière briller. Et je crois que si tous nous laissons notre lumière briller, ça n'enlève rien du tout à qui que ce soit, mais au contraire, le monde ne peut que en profiter. Je dirais même le monde est orphelin de notre lumière. À nous, les personnes sensibles qui avons tendance peut-être à se poser beaucoup de questions parfois, mais aussi à se poser des questions importantes, finalement, dont le monde a besoin. Si aujourd'hui nous voulons sortir de cette crise planétaire, retrouver un peu plus d'amour, de bienveillance pour vivre dans un monde meilleur, eh bien, c'est aussi à nous, les personnes hautement sensibles, de nous exprimer et de laisser briller notre lumière. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous aime très fort. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, un article sur notre blog. Surtout, n'hésitez pas à visiter notre site www.anizen.ch. Et encore une fois, je rappelle la formation qui débutera bientôt, l'hypersensibilité du fardeau au cadeau, une formation en ligne. Ou en replay. Il y aura aussi des stages, il y a des
événements encore qui vous attendent, restez connectés. Avec tout mon amour, encore une fois, je vous embrasse.